Alors donc, on va parler Oscar avec Marcel Dugas, notre historien. On pourrait croire qu'il s'est improvisé critique cinéma. Non, 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 il demeure historien quand même, puisqu'il nous amène en 1930 et on va comprendre pourquoi. Bonjour Marcel.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Ah ben j'ai comme tout le monde très hâte. Je sais que vous avez votre propre viewing party des Oscars pour
Oui.
dimanche. Vous avez fait vos pronostics, tout ça. Et vous faites bien de le mentionner. Ça nous fait toujours un petit quelque chose quand on voit des gens de chez nous être en
Voilà.
nomination, encore plus
Encore plus,
l'emporter.
là. Présentement, on ne cherche que ça.
Voilà, mais
Ah, mon
bon,
Dieu, oui.
évidemment, quand on pense Québécois qui ont gagné des Oscars, Denis Arcand nous vient rapidement en tête. Frédéric Bacq aussi, grand cinéaste d'animation, qui en a remporté deux
Plus
dans les années
d'un, ouais.
1980, voilà. Un nom qu'on mentionne moins souvent, il faut dire que ça remonte un peu, c'est celui de Norma Shearer, québécoise, qui a été mise en nomination 6 fois pour l'Oscar du meilleur premier rôle féminin et qui a remporté le trophée lors de la troisième présentation des Academy Awards en 1930. Shearer est née à Westmount en 1902. Son père, à certains endroits, on nous dit, est propriétaire d'une compagnie de construction. Ailleurs, il était marchand de bois. En tout cas, on nous dit que c'était un homme d'affaires très honorablement connu. Les Shearer habitent une belle maison, avenue Grove Nord à Westmount. La petite Norma vit une enfance dorée. Tout va s'effondrer vers la fin de la Grande Guerre de 1914-1918, quand la compagnie de son père fait faillite. On doit quitter la belle maison pour un appartement miteux. Les parents se séparent. On va pratiquement tout perdre. Une des rares choses que M. Shearer réussit à sauver des huissiers, c'est le piano de sa fille. Quand elle était jeune, Norma jouait du piano. Sa professeure lui prédisait un bel avenir dans le domaine musical, mais ce sont les planches qui l'attiraient. Une de ses tantes était comédienne. Elle va l'encourager à poursuivre ses rêves de show business en lui disant que pour faire carrière dans ce domaine-là, il fallait aller à New York. On va donc vendre le piano qui avait été rescapé du naufrage financier pour permettre à Norma, à sa mère et une de ses sœurs de se rendre à New York. Une fois sur place, elle va rencontrer Florence Ziegfeld, un des plus importants impresarios de Broadway, qui va essentiellement lui dire qu'elle n'est pas assez jolie pour faire carrière dans le show business.
Ah, ça part bien, ça.
Oui, mais en fait, mais Shearer était consciente du fait qu'elle n'avait pas un corps parfait, notamment elle était atteinte de strabisme. Mais à défaut de posséder une beauté qui vous jette par terre, elle était déjà à l'adolescence dotée d'une volonté de fer. Elle avait l'intention de réussir et elle va rencontrer un éminent spécialiste en matière de strabisme qui va lui donner une série d'exercices à faire. Ça va lui permettre de limiter l'impact de sa condition et finalement, ça ne l'empêchera pas de connaître une grande carrière cinématographique. Mais les années new-yorkaises sont difficiles. Elle va être mannequin pour des publicités imprimées, elle joue du piano dans des théâtres, il y a un retour à Montréal, beaucoup de petits rôles dans des films, mais son ambition transparaissait dans tout ce qu'elle fait. Elle va aller se présenter à D.W. Griffith, un des plus éminents réalisateurs de l'époque, alors qu'elle jouait dans un de ses films, mais elle jouait un rôle tellement mineur qu'elle n'était même pas au générique. Tant pis, on va voir monsieur le réalisateur, on se présente. Griffith est lui aussi d'avis qu'elle ne réussira jamais dans ce métier-là, notamment parce qu'elle avait les yeux trop bleus et ça lui donnerait un regard vide lors des gros plans. Mais déjà en 1922, on reconnaît à Norma Shearer un certain potentiel commercial, à tout le moins dans sa ville natale. Les publicités de ses films dans les journaux montréalais nous parlent de Norma Shearer, une charmante montréalaise ou une jolie montréalaise, mais c'est vraiment en 1923 que sa carrière va prendre son envol. Yeux bleus ou pas, strabisme ou pas, les gens du studio, Louis B. Mayer, ont vu quelque chose en elle et lui font signer un contrat.
Pas n'importe lequel studio, hein?
Non, mais c'était tout juste avant la fusion de Mayer qui a fusionné pour devenir la MGM, une superpuissance dans le monde cinématographique. Donc, on pourrait dire qu'elle est arrivée juste à temps, qu'elle a choisi la bonne compagnie ou que la bonne compagnie l'a choisi, elle. C'est une époque où les grands noms de l'industrie cinématographique signaient des contrats avec une compagnie de production en particulier. Ils reçoivent un salaire régulier et on les fait tourner encore et encore et encore, plutôt que, comme aujourd'hui, on joue un rôle, on participe au film et ensuite de ça, on part à la recherche d'un autre rôle. Le salaire, j'ai vu plusieurs chiffres, mais il est question d'un salaire de 250 $ par semaine. Donc, il y avait énormément d'argent à faire dans le monde du cinéma. Ce salaire-là sera majoré à 1 000, puis à 5 000 $ à mesure que sa célébrité et son pouvoir d'attraction va augmenter. Et non seulement, comme je vous le disais, elle arrive au bon moment avec la future MGM, mais elle a aussi des atomes crochus avec Irving Thalberg, super producteur de films pour le compte de la MGM, que Shearer va épouser en 1927. C'est pas à cause de ce mariage-là qu'elle est devenue une star, mais ça n'a sûrement pas nuit non plus. Norma Shearer connaît une carrière qui a cheval sur deux époques. La première décennie de sa carrière, elle joue dans une quarantaine de films, mais ce sont des films muets. L'époque du cinéma parlant débute en 1927 avec The Jazz Singer. Il y a beaucoup de stars du muet qui ne parviendront pas à faire la transition au cinéma parlant. Souvent, la voix qu'on entendait ne correspondait pas au visage de la personne, à l'idée qu'on s'en faisait. Et ces gens-là n'avaient plus d'attrait commercial une fois qu'on les entendait parler. Mais Norma Shearer était bien décidée à ne pas voir sa carrière prendre fin. Elle va recevoir notamment l'aide de son frère Douglas, qui est un des pionniers de la sonorisation au cinéma. Et Douglas Shearer a d'ailleurs gagné pas moins de 7 Oscars, 5 en sonorisation, 2 en effets spéciaux. S'il n'est pas le Québécois qui a remporté le plus d'Oscars, il est sûrement très haut sur la liste. Mais pour en revenir à sa sœur, elle va non seulement réussir sa transition vers les films parlants, mais elle va devenir une très grande vedette au niveau commercial, tout en obtenant la reconnaissance des gens de l'industrie. La première cérémonie des Oscars a lieu en 1929, et l'année suivante, Norma Shearer est mise en nomination pour son rôle dans le film « Their Own Desire », mais l'Académie lui a préféré le travail de Norma Shearer dans le film « The Divorcée ». Elle avait donc une double nomination cette année-là, et elle remporte son seul Oscar, mais elle a été mise en nomination à nouveau en 1931, 1934, 1936, 1938. Elle est donc une des actrices les plus appréciées de son époque. Mais malgré le niveau de célébrité qu'elle a atteint dans les années 1930, malgré le fait qu'elle gagnait 150 000 $ par film vers la fin de sa carrière, on ne peut pas vraiment dire que son œuvre a traversé les époques. Je ne me considère pas, moi, comme un grand connaisseur de cinéma, mais je pense pas qu'on peut dire qu'elle a joué dans un ou des films qui sont vraiment connus, même des profanes, encore aujourd'hui. Elle avait été pressentie pour jouer Scarlett O'Hara dans « Autant en emporte le vent ». Ça, ça aurait pu changer la donne, mais le rôle est finalement allé à Janet Leigh.
En tout cas, Marcel, juste pour revenir sur le fait que ces films n'ont peut-être pas connu une si grande notoriété, en tout cas, ils ne font pas partie des listes des films inoubliables ou qui ont marqué l'industrie du cinéma, effectivement.
Oui, il faut vraiment être un grand, grand expert dans cette période-là pour connaître de ces œuvres à proprement parler. Shearer ne semble pas être revenue très souvent au Québec alors qu'elle était au fait de sa gloire. Elle va faire un passage éclair en juin 1941 pour participer à la campagne des emprunts de la victoire pour aider l'effort de guerre du Canada. Et elle a presque provoqué une émeute. Sa présence a attiré près de 60 000 personnes dans son Westmount natal et la sécurité a eu toutes les misères du monde à lui permettre de quitter le parc où l'événement se déroulait après son allocution. Et on apprend en lisant le compte-rendu de l'Assemblée que Shearer s'exprimait dans un excellent français. On lui avait préparé quelques mots à dire dans la langue de Molière. Pardonnez-moi, je manque un peu de voix, mais ça s'est, semble-t-il, très bien passé. Les milliers de Westmontois, Westmontoises, Montréalais, Montréalaises qui étaient sur place ignoraient qu'ils avaient devant eux une étoile en toute fin de carrière. Norma Shearer n'avait peur de rien, je le disais un peu plus tôt. En fait, elle avait peur d'une chose, c'était de vieillir à l'écran. Son mari, qui était décédé en 1936, ça lui avait causé un grand choc, évidemment on imagine pourquoi, lui avait toujours conseillé de se retirer en pleine gloire, et c'est ce qu'elle a fait. Elle va tourner dans le film A Cardboard Lover, qui sort en juillet 1942, l'année de ses 40 ans, et décide tout simplement de prendre une retraite définitive du cinéma. Elle n'a jamais tenu aucun rôle par la suite, et s'est faite plutôt discrète jusqu'à son décès en 1983. Et Norma Shearer a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame depuis maintenant 1960.
Alors, c'est une belle histoire. Est-ce que, peut-être, je ne sais pas si vous avez regardé cet aspect-là, Marcel, est-ce qu'en 1930, au moment où elle a obtenu son Oscar, est-ce que les Oscars étaient devenus un événement à controverse? C'était seulement la deuxième année, mais est-ce que...
Ça semblait pas très connu encore. Puis j'ai regardé dans le journal de Gazette, qui avait donc la Gazette de Montréal, qui avait un intérêt tout particulier à... On peut imaginer le genre de fierté qu'aurait ressenti la Gazette de voir une Montréalaise anglophone gagner un prix de cette envergure-là. Mais c'est un tout petit entrefilet en page 6, une des pages de l'Associated Press. Donc, j'ai l'impression que ça ne résonnait pas encore à ce moment-là. Elle était considérée comme, on disait, la meilleure actrice au monde à ce moment-là, mais ça n'avait pas l'importance que ça a pris par la suite.
Oui, alors on verra dimanche s'il y a résonance ou pas, mais disons que ça s'annonce pour ça. C'est quand même un intérêt à écouter cette cérémonie des Oscars. Alors, merci beaucoup, Marcel, d'avoir fait le pont avec les débuts, justement, de cette cérémonie. Et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.